Qu'est-ce que t'as trouvé?
Tu vois?
En voilà un beau criquet.
Alors c'est comme ça le criquet?
L'oiseau va se régaler.
Tu lui donnes?
Non, donne-lui toi.
Je peux t'apprendre à t'occuper des oiseaux.
J'aime pas les oiseaux.
Théo de mon amour, Denis Chessoux.
Sale mot, il aime pas les oiseaux. Mais qu'est-ce que c'est? Bah écoutez, justement, on va lui permettre peut-être de les aimer avec les tribulations d'un chercheur d'oiseaux. C'est un de nos thèmes aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson et Alexandre Chenet. Et assisté de Sonia Leglen, sans oublier Albert Hook, c'est Hélène Bisio qui réalise l'émission. Allez, une petite humeur. Vous savez, les lois sont faites pour être changées, pas toujours pour être respectées. Eh bien, écoutez, c'est un peu le message que cherche à faire passer une bonne centaine de députés qui ont récemment déposé un projet de loi visant à détricoter le principe de précaution inscrit dans la Constitution depuis 2005 à juste un élément décoratif. Quand la Charte de l'environnement a été adoptée en 2005, avec la bagatelle de 95% de votes favorables des députés et sénateurs d'alors, apparemment, il a été omis de préciser que le principe de précaution devait être perçu comme étant à géométrie variable. Et oui, en gros, quand tout baigne, on peut se montrer intraitable vis-à-vis de tel ou tel projet, susceptible de mettre à mal l'environnement, voire la santé humaine. Mais quand les vaches de l'économie s'amaigrissent jusqu'à en devenir faméliques, eh bien on ne va pas fuir les difficiles. Seule cette croissance aussi facile à saisir qu'une savonnette mouillée doit obséder les esprits. C'est comme ça. Gaz de schiste et autres OGM sont alors les bienvenus et ne sont plus les parias de naguère. C'est donc un des exemples de ce principe d'innovation. On suppose que les dommages probables causés à l'environnement par de tels choix stratégiques seront eux aussi d'intensité fluctuante. Ce sera plus ou moins de gros dégâts en fonction du cours de l'euro, de celui du pétrole ou de la vitesse du vent. Et nos députés d'enfoncer le clou en termes à peine voilés à travers l'argumentaire accompagnant leur texte de loi. Et là, je cite notamment, certaines découvertes sont dues à des erreurs, des inattentions, des maladresses, du hasard. On peut penser d'ailleurs effectivement à Fleming pour la pénicilline. De là à faire l'apologie de la boulette irréversible, il n'y a peut-être qu'un tout petit pas que nos élus, ayant enfilé des blouses de savants fous, ne demandent qu'à franchir. Mais toujours dans le même texte, il y a encore mieux. Là, je cite toujours. Il ne s'agirait pas par le principe de précaution, de restreindre ou d'entraver certaines recherches contraires aux intérêts de groupes de pression. Alors là, au moins, c'est positif, on n'avance plus masqué, c'est clair et net. L'intérêt de certaines firmes, notamment celles qui œuvrent dans les biotechnologies, devrait donc, selon nos députés, primer sur l'intérêt général. La maxime célèbre que vous connaissez, pas de science sans conscience, ruine de l'âme, etc., serait gaillardement foulée aux pieds, et on pourrait peut-être même lui en préférer une nouvelle, pas de croissance sans indécence, je ne sais pas. Ce projet de loi tombe, on ne peut mieux, car il arrive en écho d'un autre concocté, celui-ci à l'échelle européenne. Les ministres de l'environnement viennent en effet de suggérer que dorénavant l'interdiction des OGM relèvera de la décision individuelle des États membres, la règle de l'unanimité volant en éclats de fait. Les tenants de la bouteille à moitié vide ne pourront être donc que comblés, car si un tel pays pourra effectivement interdire la culture des OGM sur son sol national, rien ne dit que le voisin en fera autant, et comme les gènes respectent les frontières avec un zèle que n'aurait pas renié un nuage radioactif ukrainien, eh bien le temps joyeux des contaminations s'ouvre enfin à nous. Alors je vous l'ai dit, on va faire tourner la map monde aujourd'hui avec différentes destinations et on va partir tout de suite du côté de Washington. On va rejoindre Corinne Laine, ça va être notre actualité parce que vous êtes correspondante au Monde. Et pendant que, depuis deux ans, donc on le sait, il y a eu le passage de cet ouragan terrible à Sandy, eh bien New York et en particulier Manhattan, qui abrite notamment Wall Street, s'apprête à se protéger de la montée des eaux. Et dans l'actualité, donc parallèlement, eh bien on s'attaque davantage aux gaz à effet de serre. Corinne Laine, bonjour.
Hi everybody. I'm here at Children's National Medical Center in Washington, D.C. Visiting with some kids being treated here all the time for asthma and other breathing problems.
Obama s'attaque aux émissions de CO2 de la puissante industrie du charbon. Ça, c'est un article que vous avez sorti il y a quelques jours. Alors, ça m'intéresse bien d'avoir un décryptage, surtout dans ce pays, comme d'ailleurs aussi la Chine, qui n'a pas signé les accords de Kyoto. Donc, c'est quand même une nouveauté, là.
Ah oui, c'est une initiative assez spectaculaire, évidemment à l'échelle américaine. Mais on se souvient que Barack Obama avait quitté la réunion de la conférence de Copenhague sur un engagement en fait de réduire les émissions américaines de 17%, mais en même temps sur un constat d'échec des négociations internationales. Là, il revient avec cette initiative dans le jeu du multilatéral et de la négociation internationale. Il veut être dans une position un peu de donner l'exemple. Bon exemple pour la conférence de Paris en 2015.
D'autant que là, les États devront véritablement s'engager. Vers quoi on tend? Une réduction de combien de gaz à effet de serre?
C'est une mesure qui concerne exclusivement donc les centrales électriques,
oui.
Les centrales électriques en activité, parce que l'Agence pour l'environnement avait déjà pris des mesures l'an dernier en vertu du plan climat d'Obama développé l'an dernier contre les émissions pour des centrales futures qui étaient en construction. Là, il s'agit de centrales existantes, donc on touche au cœur du sujet. Il faudra qu'elles réduisent de 30% les émissions avant 2030. Par rapport au niveau de 2005. Donc ça veut dire que ça entre en vigueur en fait en 2015. Les producteurs ont un an en fait pour émettre des propositions ou des critiques. Et donc en 15 ans, il faudra réduire de 30%, ce qui est encore une fois au niveau américain une bonne performance.
Oui, parce qu'il faut rappeler, Corinne Lenne, que sur les 1600 centrales électriques aux États-Unis, vous en avez plus de 600 donc qui sont au charbon. Alors derrière tout ça, il y a aussi l'Agence pour la protection de l'environnement qui est quand même assez décriée. Parce qu'évidemment, ce sont des empêcheurs de polluer en rond. Et comment ça va se passer? Parce que pour quand même Obama, il est obligé de passer par une voie, on va dire, réglementaire. Le législatif avec le Congrès, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu un blocage du Congrès.
Voilà, le Congrès a bloqué. Vous vous souvenez, en 2009, Barack Obama, tout de suite, avait essayé, dès son arrivée à la Maison-Blanche, avait essayé, en fait, de mettre en place un système de marché d'émissions. Ça avait marché, en fait, au Sénat, mais la Chambre avait bloqué, donc, à l'automne. Donc, tout ça a capoté. Et c'est pour ça qu'à Copenhague, il n'avait pas pu prendre d'engagement véritablement. Et donc, là, il a essayé de remettre un peu ça sur le tapis. En même temps, il y avait les élections donc de sa réélection de 2012. Donc là, il y a tout un moment où on l'a plus jamais entendu parler d'environnement. Mais dès qu'il a été en fait, dès son investiture, son grand discours d'investiture, donc en janvier 2013, il a parlé en fait du climat en des termes d'ailleurs l'inscrivant dans la nécessité, dans la sécurité nationale des États-Unis, ce qui est le meilleur moyen évidemment pour faire avancer les choses. Donc il a pris acte que le Congrès ne veut pas agir. Et le Congrès donc étant relativement paralysé par cette cohabitation entre républicains et démocrates, il décide de passer par la voie réglementaire, c'est-à-dire qu'il considère que l'Agence pour la protection de l'environnement est autorisée en fait à réglementer le gaz carbonique, puisqu'en fait, d'après une loi de 70 sur l'air propre, le Clean Air Act, elle a toute autorité en fait pour réglementer la qualité de l'air. D'ailleurs, Barack Obama, c'est pas un hasard si quand il a annoncé ces mesures, donc juste avant son voyage en Europe, là, il savait que les Européens sera assez content de cette mesure. Il a annoncé ça au milieu, après une visite chez des enfants asthmatiques à l'hôpital où effectivement il avait rencontré des enfants asthmatiques. Il inscrit ça dans un souci de protection de la santé des Américains. Et comme il a dit, la protection, les Républicains évidemment sont furieux, estiment que l'impact
sera très important à la fois sur le prix de l'énergie et aussi sur les emplois.
Voilà, ils estiment, ils ont sorti des chiffres absolument, la Chambre de commerce plus certains élus ont sorti des chiffres absolument catastrophistes sur le nombre d'emplois perdu, mais lui, il a répondu en disant la santé de l'économie. On peut avoir aux États-Unis, nous sommes un pays suffisamment grand pour avoir à la fois la santé de l'économie et la santé de nos populations et de nos enfants.
Comment vont agir les différents États ?
Justement, connaissant l'hostilité traditionnelle pour tout ce qui est, parce que les États donc qui produisent du charbon ont évidemment des élus qui sont fortement soumis à des lobbies puissants. Donc effectivement, l'Agence pour la protection de l'environnement a été assez prudente et a donné un an aux États pour annoncer des solutions visant à arriver à ce chiffre de réduction de 30%. Certains Donc, sont déjà, en fait, une douzaine d'États américains, en fait, ont déjà un système de ce qu'on appelle de cap and trade, c'est-à-dire de marché d'émissions. Donc, ceux-là vont probablement poursuivre dans cette voie. D'autres vont essayer de faire plutôt des améliorations au niveau des centrales existantes par les techniques de séquestration du carbone. Donc, chacun est un peu amené à essayer de se débrouiller, de mettre en place ces solutions parce que, évidemment, aux États-Unis, s'il y a une réglementation au niveau fédéral, ça suscite évidemment beaucoup d'opposition, pas seulement des républicains, mais traditionnellement, les Américains sont assez contre tout ce qui n'est pas conforme à une espèce de libre entreprise et chacun a droit à sa créativité et à inventer ses solutions.
Est-ce parce que le gaz de schiste se porte bien et qu'il dégage moins, malgré tout, de CO2 et qu'il est moins polluant que le charbon que ceci peut avoir lieu, à votre avis ?
C'est-à-dire le chiffre retenu, les 30%, qui paraît assez spectaculaire, effectivement, c'est par rapport à ce seuil de 2005. Et depuis, donc, en fait, c'est à la fois spectaculaire, mais en même temps, quand on voit qu'il y a déjà eu une baisse, en fait, des émissions.
Déjà de 15%, c'est ce qu'on a vu. Oui.
D'une part, voilà, exactement, à cause, effectivement, du gaz de schiste beaucoup plus propre. Et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, à cause de la crise économique qui avait réduit quand même la production. Mais effectivement, la révolution énergétique a aussi rendu les Américains leur a donné peut-être plus de discernement. Il y a d'autres solutions que simplement le tout charbon.
Bah, merci beaucoup, Corinne Lenne. Et puis, à très bientôt. Merci à vous.
De rien.
Au revoir.
Merci, bonne journée. Au revoir, Denis.
Et on vous retrouvera dans le monde tout à fait régulièrement comme correspondante aussi à Washington. Vous ne connaissez pas le cirapte paradoxal ? Je le sens bien ! Eh bien, on va suivre ça avec les tribulations d'un chercheur d'oiseaux avec Philippe Dubois. Ce sera notre deuxième sujet.
Did the child crying all by himself? His parents left him by the time he was 12. He feels all alone. He don't wanna live. He'll get along. I'm not often wrong.
We get along
through all of our lives.
We get along
through sorrow. The sun is coming with all of his might. I'll know, I know it'll be all right.
Through darkness and rain, sorrow and pain,
we prove again and again and again.
We get along
through all of our lives.
We get along
through sorrow.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
As these wars keep rolling on, all of our young ones are fighting strong. Who's to know if it's right or wrong? I just know we got to get along. We got to and come together.
Sur France Inter, choisi par Thierry Dupin, c'était Sharon Jones and the Dapkins. We get along. 01 56 40 40 35, 01 56 40 40 35, eh bien, c'est le répondeur qui est à votre disposition, qui va lancer notre deuxième partie.
Bonjour, je suis Mercier Didier, donc je suis à Meaux, en Seine-et-Marne. Depuis le mois de septembre, je récupère des vieilles planches que les gens laissent abandonner sur le bord des routes, que j'ai trouvées tout à fait par hasard. Et j'en fais des nichoirs pour les oiseaux sauvages, accessoirement aussi pour les mammifères. Je les installe donc au parc du Pâtis, qui est un parc situé au sud de Meaux. J'en ai installé à ce jour un peu plus de 40 nichoirs, environ entre 40 et 50 nichoirs. Et donc cette année, j'ai eu au total 34 nichoirs occupés, tous par des maisons charbonnières. Merci.
Eh ben, ça pourra peut-être aussi un petit peu occuper votre mère, hein, parce qu'il y a un peu plus de temps libre, me semble-t-il. En tout cas, c'est très intéressant comme initiative. Et on va rejoindre un homme qui s'appelle Philippe Dubois, depuis France Bleu, La Rochelle. Bonjour Philippe Dubois.
Et bonjour Denis.
Aux éditions de La Martinière, vous venez de sortir Les Tribulations d'un chercheur d'oiseaux. Donc ce que nous a dit ce monsieur quand même doit vous plaire. Hein. Vous aussi, membre éminent de la Ligue pour la protection des oiseaux, c'est pas mal.
Oui, c'est un fou génial. Ben voilà. Il en faut des gens comme ça, c'est merveilleux, ça fait rêver.
Et vous, quand vous étiez petit, vous étiez dans votre bain avec des petits canards en celluloïdes, voilà, et vous avez commencé à imaginer un monde ornithologique déjà sans le savoir quand vous étiez minot.
Ah ben oui, parce que je voyais ces oiseaux, puis je savais qu'ils volaient. Moi, pauvre bipède accroché au sol, au plancher des vaches, je savais que je ne volerais jamais. Donc les oiseaux ont commencé à me passionner comme ça. Je me suis dit, mais si je ne peux pas les suivre en vol, au moins je vais les suivre à pied et je vais les pourchasser, dans le bon sens du terme, dans le monde entier. Et c'est ce que j'ai fait.
Je veux voler. Je le veux plus que tout au monde.
Philippe Dubois, lorsque vous partez à la rencontre de ces oiseaux, est-ce que vous enfilez pas un habit d'un explorateur un peu du 19e siècle hein ?
Ah, complètement. C'est d'ailleurs une des choses pour lesquelles j'ai été poussé à me promener, c'était non pas d'imiter, je ne me permettrai pas, mais d'aller un peu sur les traces des explorateurs du 18e et du 19e, ceux qui partaient, alors dans des conditions beaucoup plus compliquées que les miennes, observer des oiseaux, des animaux, de la faune, de la flore, souvent inconnus de la science. Mmh. Et c'est effectivement, moi, quelque chose qui me fascinait, c'est-à-dire aller dans des endroits où, on va dire, la main de l'homme n'a jamais le pied.
Oui.
Voilà, hein, grosso modo, des endroits vraiment un peu reculés où je savais que j'allais trouver des oiseaux extraordinaires, ne serait-ce que par leur nom ou parce qu'ils sont dans des endroits cachés, on sait très peu de choses sur eux. Et c'était ça qui... Et c'est toujours ça qui est le véritable défi de l'ornithologue.
Et vous dites très joliment qu'avec des jumelles, en fait, on ne réduit pas son champ de vision, mais au contraire, on l'élargit. Alors là, on va partir peut-être sur un lieu assez incroyable. C'est quand même un sympathique désert qui est celui de Gobi. Donc nous sommes en Mongolie. Et c'était une expédition assez dingue. Donc vous n'allez pas forcément nous la résumer, mais c'est pas simple hein, pour aller voir des oiseaux en Mongolie.
Non, c'est très compliqué. Surtout que j'y étais à la fin des années 90, donc c'était pas très bien organisé. On a réussi juste à se perdre dans le désert le lendemain de notre arrivée. Et on a eu un peu la vie sauve grâce à un hélicoptère, le seul qui existait à l'époque de la sécurité civile, qui est venu nous repêcher dans un endroit parce que le gars était tombé en panne sèche.
Une espèce d'oiseau à moteur, quoi. Enfin, c'était ça.
Oui,
quoi.
Voilà, c'est ça.
Assis sur le bord de la fontaine, je fais de la musique pour les pigeons qui jouent à picorer les graines que leur jette un petit enfant blond.
Et donc on y allait notamment pour voir un oiseau qui a un nom absolument infernal, qui s'appelle le cirapte paradoxal.
Ah oui.
Alors c'est quoi ? Eh ben c'est une espèce de la famille des pigeons qui était paradoxale parce qu'en fait, autrefois, il faisait des grandes, même pas des migrations, une sorte de dératisme, des invasions un peu comme les Huns, jusqu'en Europe. Parce que lorsqu'il n'y avait plus assez à manger dans ces grandes steppes, il bougeait, il volait vers l'ouest jusqu'à ce qu'il trouve à manger. Et il y a eu des invasions jusqu'au début du XXe siècle. Et puis ensuite, elles se sont estompées, tout simplement parce que les populations ont probablement fortement diminué et que maintenant, les oiseaux sont trop peu nombreux pour faire ce type de migration. Mais d'aller voir ce cirapte paradoxal dont les auteurs anciens nous parlaient, comme à la fin du 19e, qu'on en voyait jusque sur les côtes de Picardie ou en région parisienne, c'était vraiment quelque chose qui me fascinait. Moi, quand je disais ça, quand j'étais gamin, donc je voulais aller les voir. Et donc, on est allé les voir là-bas. Au milieu d'autres choses comme les saïgas ou comme les loups, on est allé voir ces cirapes paradoxaux dont le simple nom évoquait pour nous la Mongolie et cet immense désert de Gobi.
Alors on voit très très bien donc le côté mythique de l'affaire et vous dites qu'il a un vol effilé et qui ressemble un peu à une espèce de faux qui va raser la steppe.
Oui, parce qu'en fait il a des ailes très longues, il vole très très vite comme tous les pigeons, Et en fait, en passant comme le mâle a une espèce de prolongation de l'aile qui fait une pointe, ça fait un sifflement. Donc, vous entendez d'abord ce sifflement avant de les voir et vous savez un peu qu'il va falloir ouvrir les yeux pour voir ces cirapes qui souvent ne font passer parce qu'on les voit le matin et le soir lorsqu'ils vont. Ils font des dizaines de kilomètres pour aller chercher de l'eau et dans les rares points d'eau qui se trouvent dans ce désert. Et en fait, ils mettent en plus de l'eau dans leur plumage, tout simplement, c'est ça qui est extraordinaire, tout simplement pour aller ensuite abreuver leurs poussins avec l'eau qui s'est coincée dans les plumes. formidable.
C'est pas mal, c'est un réservoir pour les petits, donc c'est
voilà.
C'est alors le guetteur de plumes que vous êtes va nous emmener aussi en Antarctique et on va se couvrir un petit peu différemment par rapport au désert de Gobi. Enfin, on imagine bien que le désert de Gobi, la nuit, il doit quand même aussi faire très froid.
Ça caille.
Bah oui, absolument. Et là, on va rencontrer à la fois des manchots et des albatros, autrement dit des habitants de l'hémisphère sud.
Oui, alors pour rejoindre la péninsule Antarctique, on est parti de Ushuaïa, oui. Qui est la ville la plus méridionale au monde.
Dans la Terre de
et
Feu.
En terre de feu. Et évidemment, on a eu à se colter le fameux Drake, qui est le passage du Drake, qui en fait est cette partie où l'océan Atlantique rejoint l'océan Pacifique, hein, les 40e rugissants, etc. Donc, des endroits assez un peu compliqués, donc surtout qu'on s'est.
C'est très bien pour l'estomac, quoi, c'est ça. Pour le...
Ah, comme vous dites, oui. C'est-à-dire qu'on s'est tapé un petit coup de vent avec des creux de 10 mètres, donc c'était assez incroyable. On voyait notre estomac, où on le sentait.
Oui, qui sortait. Qui...
Oui, voilà. Quand on voyait les poissons, quand on voyait les oiseaux. Et puis là, on a été accompagné pendant 9 heures, hein, on a regardé, montre en main, 9 heures par un albatros hurleur qui fait juste 3,60 m d'envergure. C'est donc le plus grand oiseau au monde.
C'est le plus grand. Je crois que c'était le condor. Non, c'est pas le condor.
Non,
pas ça,
c'est un petit joueur. Et,
ah, non, joueur, il fait 2,80 m, je crois, celui-là.
Ouais, non, c'est rien. Là, non, 3,60 m, c'est extraordinaire. Et alors, il nous a accompagnés derrière le bateau. Pendant 9 heures, sans battre une fois des ailes. Pas une fois. C'est-à-dire qu'il se jouait des courants que générait le bateau en avançant. Et donc, il montait, il redescendait, il montait. Et avec son petit œil fixe, il nous regardait. Nous qui tentions plus ou moins de maintenir nos deux mains sur la rambarde. Lui, il se jouait du vent, il se jouait de la tempête. Et il nous regardait de son petit œil inquisiteur. Ça a été un grand, grand moment. Parce qu'un oiseau qui est capable de voler comme ça pendant 9 heures, sans battre une fois des ailes, alors que vous, vous êtes perdu sur votre coque de noix.
Oui.
Si vous voulez, on sentait le déséquilibre. Hein. C'est-à-dire que là, on se dit que l'homme non seulement ne vole pas, mais n'est pas non plus un animal marin.
Alors c'est là aussi qu'on essaye de les imiter, parce que quand on voit les économies d'énergie que font ces animaux, où pour eux, l'énergie doit être économisée, bien évidemment, parce que c'est synonyme de nourriture. Et quand on pense aussi à l'albatros, ça veut dire que, par loin, c'est un migrateur merveilleux, celui-là.
Ah oui, c'est en fait, pour nourrir ses jeunes, un albatros est capable de faire 1000, 1200, 2000 km dans les mers qu'on appelle les mers subantarctiques, hein, océan Indien, océan Pacifique, océan Atlantique. Il ne compte pas ses kilomètres, puisque de toute façon, il va dépenser très peu d'énergie. Faire 1000 km pour aller au supermarché, ça ne le gêne pas du tout.
C'est ça. Donc ce sont des plumes qui sont portées par le vent. Alors il y a cet oiseau-là donc, qui vole, et puis il y en a un qui ne vole pas du tout, c'est le manchot. Et attention, ne pas le confondre avec le pingouin. Et pourtant, on l'a souvent confondu avec le pingouin.
Mais oui, mais tout ça, ça vient du commandant Cousteau.
Qu'est-ce qu'il a fait encore?
Eh bien, commandant Cousteau...
Yes, I want to see the penguin.
Voilà. Et oui, parce qu'en anglais, manchot se dit penguin. Et il a traduit par pingouin. Mais le problème, c'est que les pingouins, ce sont des oiseaux qui existent, eux, dans l'hémisphère nord. Mmh. Pingouin, le guillemot, le macareux, tout ça, ce sont des oiseaux de la même famile.
Malheureusement, parfois, on rajoute...
Et qui volent très bien.
On rajoute, pardonnez-moi, guillemot mazouté.
Et guillemot mazouté, oui, c'est ça. Pingouin mazouté, macareux mazouté. Voilà, exactement. Alors, eux, ils volent très bien, ils sont dans l'hémisphère nord. Mais ce ne sont en aucun cas... des manchots. Et le manchot n'est surtout pas un pingouin. Donc le manchot, c'est un manchot. Et même si ça se dit penguin en anglais. Donc là, il avait fait un anglicisme affreux, quoi.
D'ailleurs, on l'entend parce que le peuple migrateur nous a quand même beaucoup, beaucoup initiés. On est à peu près au point maintenant sur les manchots. Hein. Donc,
oui,
donc c'est ça.
Oui.
Alors donc, vous les avez vus aussi, mais vous aviez cette soif de connaissance du manchot ou bien vous y avez été pour l'albatros, pour les deux?
Pour les deux, vraiment. Pour un ornithologue, il y a les 10 top 10 des espèces qu'on a envie de voir une fois dans sa vie et figure évidemment... Dans ce classement, le manchot et l'albatros. Alors, les manchots, c'est extraordinaire. Moi, j'adore. Alors, on parle toujours de, vous savez, le manchot empereur et tout. Moi, j'ai véritablement un amour pour le manchot papou. Parce que le manchot papou, je vais vous dire, le mâle, pour séduire sa femelle, il lui apporte des petits cailloux. Si c'est pas mignon. Il lui apporte des petits cailloux et pof, il lui dépose à ses pieds. Ensuite, il fait un glou-glou-glou-glou assez incroyable pour lui dire qu'il est content de lui avoir fait un cadeau. Et elle, mollement, prend le caillou, il le met à ses pieds. Alors, au bout d'un certain temps, ça lui fait des cailloux partout. Et donc, ça lui fait une sorte de nid. Et elle va poser son nid au milieu des cailloux. Et le mâle, il est tout content. Donc, du coup, il repart et il ramène des cailloux. Il ramène des cailloux. Et à chaque fois, il fait glou-glou-glou, bec tendu vers le ciel, moignon d'ailes écarté. Il aurait un bouquet de violettes sur... sur sa nageoire, il serait aussi attendrissant.
Ah oui, tout à fait. Vous avez des mâles qui font pareil, mais ce sont ceux qui ont beaucoup d'argent et qui vont du côté de la rue de la Paix à Paris, qui vont faire les bijoutiers. Donc ils rapportent des cailloux aussi à leur bête.
Voilà, c'est alors ça, c'est pas les mêmes, parce que là, le caillou c'est antarctique, c'est banal, on va dire.
Et puis il y en a un que vous avez vu et vous ne l'attendiez pas forcément, c'est le pétrel géant, qui est un animal tout à fait sympathique et nécrophage.
Ah oui, alors le pétrel géant, il ressemble un peu à un albatros. Alors lui, ce qu'il aime bien, c'est manger les petits manchots qui sont morts, les petits éléphants de mer qui sont morts, tout ce qui est mort, quoi. Alors c'est un éboueur, c'est l'éboueur de l'Antarctique. Il n'a pas l'air très sympathique, il a un petit œil, un gros bec, et il mange tout ce qui est... Parce que malheureusement, il y a souvent des fortes mortalités. Il suffit d'un bon coup de blizzard sur une colonie de manchots pour vous éradiquer un tiers des poussins. Donc lui, il passe après et il festoie.
Voilà, et si vous aviez été un peu malade, il se serait sûrement occupé de vous parce que...
Parce que si vous voulez, quand il y a de jeunes otaries ou de jeunes éléphants de mer... malades ou qui ne sont pas en forme, disons qu'ils les achèvent quand même avant.
C'est ça.
Voilà. Même s'ils ne sont pas morts, ils commencent à les manger.
La clé de ce lieu, c'est quand même le krill, ce fameux krill qui est beaucoup, beaucoup chaluté d'ailleurs aussi aujourd'hui. Oui. Mais c'est ça la clé de la vie là-bas.
C'est la clé de la vie et c'est une... Vous savez, quand on voyage comme ça, quand on nous parle par exemple du réchauffement climatique, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, ça reste toujours un peu conceptuel chez nous. Mais quand on voit là-bas qu'un pauvre petit degré de plus de l'océan perturbe la totalité de la chaîne alimentaire, donc effectivement avec les krills, puis ensuite les poissons, puis ensuite les baleines ou les manchots, puis les prédateurs des manchots, etc. On se dit quand même que tout ça est extrêmement fragile, même s'il reste évidemment des tonnes de krill, hein, ces petits crustacés, ces micro-crevettes, qu'on voit d'ailleurs pas, hein, tellement ils sont petits, mais c'est là où on prend conscience quand même que tout ça est extrêmement fragile et que si on continue à jouer avec le krill, justement, on risque nous-mêmes, pauvres humains, d'être à notre tour assez gravement touché.
Assez touché, le krill ne paie pas.
Excellent.
Je ne sais pas si vous aurez le temps de nous parler de la bouscarle chanteuse, nous sommes en Sibérie, mais j'ai presque envie quand même de revenir sur ce qui est important là aussi. C'est-à-dire que vous le disiez, les oiseaux sont de formidables indicateurs de l'état de notre planète.
Oui, vous savez, autrefois, les mineurs, quand ils descendaient dans la mine, ils emportaient avec eux un canari. Et vous savez pourquoi ? C'est parce que quand le canari
cessait de chanter,
il était mort parce que le taux de monoxyde de carbone était trop élevé et il était plus que temps pour les mineurs de remonter à la surface. Et ben, les oiseaux, ils nous font la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on voit des populations d'oiseaux qui diminuent de façon très importante, alors qu'apparemment le milieu ne change pas, mais qu'on voit bien qu'il y a des perturbations climatiques sur leur site de migration, sur leur site d'hivernage, ils nous indiquent quelque chose qu'on devrait essayer de lire, en tout cas, et de prendre en compte pour notre propre survie. Et les oiseaux nous y interrogent. Et voyager et aller à la rencontre des oiseaux, c'est aller à la rencontre de tout ça avec à la fois... beaucoup d'humilité, beaucoup de patience, mais aussi beaucoup de bonheur, quoi. Mais en restant vigilant.
En vous écoutant, on comprend pourquoi vous avez été, donc, et vous êtes toujours un guetteur d'oiseaux, parce qu'en fait, leurs plumes sont chargées de poèmes, aussi de rêveries, pas seulement de l'albatros, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on est aussi face à la gratuité du monde.
Ah, mais complètement. Moi, je dis toujours, un ornithologue, c'est un guetteur d'instant. C'est-à-dire que souvent, il faut attendre très très longtemps pour voir un oiseau qui va se poser devant nous sur une branche, qui va y rester deux secondes et qui va repartir et qu'on ne reverra plus jamais. Donc on va se dire, tout ça pour ça. Oui, mais en même temps, il y a eu toute cette attente, un peu comme un amoureux transi qui attend sa fiancée, quoi. Ils nous apprennent la contemplation. Et la contemplation, ça permet d'arriver à beaucoup de choses dans la vie. Enfin, ce n'est pas de la philosophie que de dire qu'on peut apprendre une certaine forme de sobriété en regardant ce monde vivant. Et les oiseaux nous y invitent. Et ça, c'est formidable, quoi. Mais ça nous apprend beaucoup sur nous-mêmes de regarder les oiseaux.
Alors, ce regard, ce travail de grande patience, bah, vous le retrouvez dans cet ouvrage aux éditions de La Martinière, Les Tribulations d'un chercheur d'oiseaux. Vous nous emmenez aussi bien au Népal, l'Antarctique, on en a parlé, la Birmanie, le Maroc, la Sibérie, la Géorgie, et puis aussi donc du côté de l'Ouessant. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter, Philippe, ce qu'on appelle une nouvelle coche, parce que ça c'est vraiment le langage des ornithologues. Cocher un oiseau, rappelez-nous ce que c'est quand même.
Cocher un oiseau, c'est l'observer pour la première fois de sa vie. Ah, donc voilà. Les anglo-saxons sont des férus de ça, ils tiennent des grandes listes des oiseaux qu'ils ont vus dans leur vie. Ce qu'on peut nous souhaiter, un nouveau voyage.
Et ben voilà, volez bien. Merci à vous, à bientôt.
Merci Denis, à bientôt.
Assis sur le bord de la fontaine, je fais de la musique pour les pigeons qui jouent à picorer les graines, que leur jette un petit enfant blond, le nez en l'air, les yeux dans le ciel, le cœur tout à cette tourterelle. Il vit de son sac de millet, dans les roucoulements satisfaits. Toi l'enfant blond, roi des pigeons, je voudrais que tu viennes dans ma chanson, pour que t'y mettes ta gentillesse. Tu sais, le monde en a besoin, regarde autour de nous, ça va pas bien. Les gens font peur à nos ramiers et les dérange sans s'excuser. Assis sur le bord de la fontaine, je fais de la musique pour les pigeons qui jouent à picorer les graines, que leur jette un petit enfant blond. Le cœur léger comme une bulle d'air, il fait sourire ses grands yeux clairs. Quand les oiseaux pour réclamer viennent lui picorer le bout des pieds, dans ses yeux y a tellement d'amour que tous les piou-piou des alentours viennent se poser sur son épaule, en lui roucoulant des mots doux, en le chatouillant avec leurs plumes dans le cou, pour que résonne son rire d'enfant au milieu des fleurs du printemps.
Les pigeons, c'était Hervé Christianis, à quelques heures de vol, sans jeu de mots, mais c'était quand même très très agréable. Vous êtes bien sur France Inter, c'est Où de mon amour, votre magazine de nature et d'environnement. Vous n'avez pas de train, mais vous avez France Inter. Écoutez, c'est voilà, on remplace pas tout, mais c'est quand même comme ça. Et nous avons aussi un répondeur, 01 56 40 40 35, qui nous mène en Ardèche.
Bonjour Denis, donc je viens te parler de nos premières rencontres du vivant. C'est le 10e anniversaire de l'association Paille-Olive. Ces rencontres, c'est le contraire de l'écologie triste. Hein. C'est l'écologie de bonne humeur, de l'écologie optimiste. Alors, bien sûr, nous aurons des ateliers sérieux, avec la présence de Gilles Boeuf, le président du Muséum d'Histoire Naturelle, avec, bien sûr, aussi Pierre Rabhi, notre agroécologiste à la fois local et mondial, et Francis Allais, l'homme du radeau des Cimes. À la fin, donc, nous souhaitons produire une déclaration solennelle qui nous engage sur le chemin d'une écologie heureuse. Et tout ça, ça se passe au Vence, en Ardèche, depuis vendredi 13, c'est le soir de la pleine lune, jusqu'au dimanche 15 juin au soir. Merci Denis, à bientôt.
Et oui, c'est pas très loin de chez Pierre Rabhi, on le sait, du côté de la Blachère. Ah, alors là maintenant nous allons changer de l'Ardèche, nous allons passer au Brésil.
C'est Où de mon amour ? Denis Chessou.
A cidade não tem de mato, tem pessoas, então...
Mon portugais étant un petit peu faiblard, je vais vous le faire en français. Direction donc le cinquième pays le plus grand du monde, à savoir donc le Brésil. Pas loin de 200 millions d'habitants. Et là, on va aller à 600 km au sud-est de Rio, au centre de la région la plus industrialisée d'Amérique du Sud. On va aller à Curitiba. Et depuis 71, eh bien, le maire, Jim Lehner, a vraiment changé sa ville. D'abord, effectivement, un tri des déchets contre de la nourriture. On l'avait évoqué déjà avec Jean-Marie Pelt. Et puis aussi, des transports très intéressants. Et il se trouve que Curitiba a été l'invité d'honneur du dernier salon européen de la mobilité transport 2014. Et Bernard Soulages, vous êtes, vous, en charge des affaires internationales au Conseil régional Rhône-Alpes. Vous connaissez bien ces sujets-là. Donc vous avez invité Curitiba. Alors dites-nous évidemment un peu pourquoi dans cette ville de 3,5 millions d'habitants, où vous avez donc ce réseau extrêmement important, 80 km et plus de 70% de la population qui utilise ce réseau de bus.
Ah, c'est certainement la ville la plus en avance sur un élément qui a crevé le paysage ces dernières années, qui est ce qu'on appelle les bus à haut niveau de service. C'est-à-dire c'est là où on a réellement inventé ce système de ce qu'on appelle aussi en anglais les bus ouest, c'est-à-dire de bus qui ont un itinéraire complètement dédié. Il n'y a que, c'est pas du tout comme à Paris avec des taxis ou des vélos, mais il n'y a que ça. Et ça ressemble en fait à une espèce de ligne de métro. C'est extrêmement capacitaire, on met beaucoup de monde dedans. Et c'est extrêmement rapide et pratique. Donc c'est vraiment, je dirais, la mecque de ce nouveau système qui est en train d'envahir d'ailleurs le monde entier à la suite de ce qu'ont fait l'Amérique latine et notamment Curitiba.
Alors, ce sont véritablement des métros de surface. Si ça envahit le monde entier, c'est peut-être aussi parce que, certes, le tramway est très agréable et ça marche toujours dès que l'on met un tramway, mais ça coûte beaucoup plus cher que ces bus à haut niveau.
Oui, absolument. Alors, il y a deux choses qui l'expliquent. La première, effectivement, c'est le coût. C'est beaucoup moins cher parce que vous avez un coût qui, au kilomètre, je dirais, de l'ordre de 2 à 5 fois moins cher. C'est un tramway à 20 millions d'euros du kilomètre. Ça peut monter jusqu'à 40. Et un bus à haut niveau de service, vous pouvez l'avoir autour de 5 millions d'euros du kilomètre et parfois plus, selon l'endroit. Et puis la deuxième raison, c'est que par ailleurs, comme on est un peu tous rationnels, on a commencé à faire les tramways où il y avait beaucoup d'usagers. Et puis on risque d'en faire là où il y a beaucoup moins d'usagers. Donc c'est ce qu'on appelle en économie un rendement très décroissant. Et donc il faut s'adapter. Et le bus à haut niveau de service peut être un formidable complément quand il y a moins d'usagers pour le tramway.
Alors ça marche très bien, ça, j'ai vu qu'il y avait des bus tous les 45 secondes et 70% des habitants donc empruntent ces bus.
Oui, parce qu'ils ont donc effectivement à peu près toutes les 45 secondes, c'est très impressionnant. D'ailleurs le modèle s'est reproduit par exemple à Istanbul depuis très peu de temps, mais ça marche très bien, c'est très régulier. Vous y accédez par des rampes accès pour les personnes à mobilité réduite, c'est avec des stations qui ressemblent tout à fait à une station de tramway, voire mieux. Et par ailleurs, ils ont même inventé les bus omnibus et les bus express, de façon à ce que ceux qui habitent un peu loin n'aient pas à faire toutes les stations. Donc évidemment, ça marche très très bien et sur des dizaines de kilomètres. Donc aujourd'hui, pour traverser Curitiba, qui est, vous l'avez dit, une grande métropole, vous avez plutôt envie de prendre ça que de vous mettre dans les embouteillages, d'autant plus que légitimement, ces bus empruntent une partie de la voirie, donc ça réduit les espaces pour les véhicules individuels.
Bernard Soulages, au-delà des bus, il y a aussi une véritable politique en faveur du vélo.
Oui, moins que chez nous, moins emblématique que le bus, mais ce qui est très intéressant, c'est que cette ville qui a lancé le système de bus cherche en permanence à inventer une mobilité durable et qui soit à la fois socialement et écologiquement responsable.
Bernard Soulages, lorsque l'on parle quand même de transport en commun, oui, certes l'écologie, mais aussi le social.
Oui, tout à fait. Vous le disiez tout à l'heure, l'objectif du réseau, lorsqu'il a été constitué, c'était de permettre à des gens qui n'avaient pas de mobilité de venir et qui étaient soumis à des bus qui duraient 1h15, qui brinque-ballaient. Donc c'est aussi ça, désenclaver un quartier, faire que des gens puissent venir sans affaire des infrastructures trop lourdes. Et je pense qu'on ferait bien d'entendre tout cela en France et en Europe. Et je crois d'ailleurs que ça commence à être entendu. Et le salon, de ce point de vue-là, était une formidable vitrine. Le bus à haut niveau de service, c'est un moyen de désenclaver le territoire. Et puis c'est aussi écologiquement intelligent, surtout quand on fait comme eux et qu'on y met des biocarburants issus du méthane, oui. Pas forcément de l'agriculture intensive.
Pas forcément de la canne à sucre, voilà, c'est ça.
Voilà, voilà. Donc c'est, je crois, vraiment intelligent. Medellin a fait pareil. Et maintenant, je vous le disais, Istanbul, et puis on commence à le faire en France. Espérons qu'on va en France sortir un peu de l'esprit de système et être plus pragmatique comme ils ont su l'être nos amis de Curitiba et de Nacla.
qu'est-ce que vous dites par esprit de système? Ça nous intéresse bien. C'est-à-dire que pour vous, on est quoi? Sur un mode
C'est mon discours depuis longtemps que je m'occupe de transport. Et oui. On est trop monomaniaque. On fait une voiture individuelle, après on passe au bus, après on passe au tramway, et après on passe au train. Et entre tout ça, il y a plein de possibilités. Il y a le covoiturage, il y a l'utilisation intelligente des taxis, il y a les minibus, et puis bah, il y a les bus entre le bus et le tram, il y a le bus à haut niveau de service, et entre le tram et le train, il y a le tram-train. Donc il y a plein de choses que nous n'avons pas su faire en France, parce que quand on a fait, nous, à Grenoble, puisque je suis aussi grenoblois, les premiers trams, tout le monde a dit c'est formidable et tout le monde a voulu son tram. Et du coup, on a sorti les trolleys, sorti les bus, ce qui est ridicule. Au contraire, il faut être beaucoup plus pragmatique. Et de ce point de vue-là, ce qui nous arrive d'Amérique latine et parfois même d'ailleurs d'autres pays, comme les minibus, c'est beaucoup plus pragmatique. Et je crois que c'est très performant pour la France qui a une formidable réussite grâce au cartésianisme. Mais de temps en temps, on peut en sortir un peu.
Alors on n'oppose pas évidemment les différents genres de transport en commun, simplement ce que vous dites c'est qu'il y a un éventail, il faut jouer, au maximum.
Absolument, vous savez, dans un pays comme le nôtre où on a beaucoup de périurbains, moi je le regrette, cet émiettement urbain considérable, mais en même temps il faut faire avec. Et vous n'allez pas aller chercher des gens avec des bus de 50 personnes là où il y a 15 habitants. De la même façon, vous ne les amènerez pas sur 10 km avec un train là où il n'y a pas de gare. Donc il faut trouver tous ces systèmes-là intelligents qui permettent de combiner. Mais je vais vous faire un aveu. Nous avons passé 3 ans, 5 ans à Grenoble pour obtenir simplement que les bus puissent circuler sur la bande d'arrêt d'urgence de l'entrée de Grenoble, alors même que c'est l'endroit le plus encombré de France à part Paris. Voilà, on est beaucoup trop dans des règlements, des systèmes qui ne sont pas assez pragmatiques. Et en matière de transport, voilà, depuis un mois, nous avons ces bus qui circulent sur 12 km à l'entrée de Grenoble et je peux vous dire que les gens sont satisfaits.
Ben oui, c'est ça. Donc un bon petit choc de simplification au niveau des transports, on l'attend avec impatience. Bernard Soulages, on sait que les transports en commun ne sont pas faits forcément pour être rentables, mais comment ça se passe à Curitiba? On a beaucoup limité la fraude, mais là, véritablement, la métropole a mis le paquet dessus.
Oui. C'est leur priorité financière. Hein. Ils ont décidé d'en faire une priorité financière. Ils sont au petit équilibre. Comme on dit, le petit équilibre, c'est-à-dire que les coûts de fonctionnement sont couverts par le prix du ticket, mais pas l'investissement. Et je crois que c'est une bonne politique. Vous savez, si on était déjà au petit équilibre dans nos pays, ça serait bien. Et l'une des raisons pour lesquelles ils sont au petit équilibre, c'est pas que le ticket coûte cher, c'est que les bus sont absolument pleins. Que donc, du coup, la recette, même si le ticket unitaire n'est pas élevé, est très élevée, alors que nous avons parfois, là aussi, peut-être par esprit de système, pas assez de flexibilité dans les horaires pour faire que nos trains ou nos bus soient vraiment complètement bien remplis.
Et oui, et après donc un sujet naturaliste avec nos oiseaux, c'est Au de mon amour sur France Inter, vous le savez, c'est la diversité, donc c'était de l'écologie urbaine. Tenez, un autre message.
Denis ? Oh zut, c'est sa messagerie. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je t'attends, je suis un rêve d'océan. Tu sais, le plus chouette festival de livres jeunesse et BD du monde entier. Bon, en toute objectivité, hein, bien sûr. Je t'en ai parlé des centaines de fois. C'est à Douélan, dans le Finistère Sud, un des plus jolis ports de Bretagne. Bon, cette année, on a quand même mis les bouchées doubles, hein, parce que c'est le 10e anniversaire. Alors nos bougies, on va les souffler avec du monde et du beau. En plus, il y aura des expos, des spectacles, de la musique, des ateliers, et toujours le passage en bateau pour rejoindre l'autre rive. Autant dire que ça va être la fête jusqu'à demain soir. Allez, on n'attend plus que toi, mon petit loup. À tout de suite.
Là, il y avait les deux versions. Vous voyez, c'était le mélange de La Tue du Mon Petit Loup et de C'est Au-de-Mon Amour, mais aussi pourquoi ? Parce que ce salon jeunesse à Douélan est aussi beaucoup tourné vers la mer et vers l'écologie. Ah bah moi, je vais me tourner maintenant vers Jean-Marie Pelt, car on va aller dans l'Atlantique, au nord-ouest du Sahara occidental, et on va s'intéresser à quelques îlots. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Alors nous partons donc sur ces îles, il faut dire les îles, parce qu'il y en a 7 hein, des Canaries.
Oui, absolument. Et nous allons aller sur une des moins fréquentées, qui est l'île de El Hierro.
Et celle-là, elle n'est pas bétonnée.
Elle n'est pas bétonnée du tout, et c'est l'île la plus occidentale, où très peu de touristes vont d'ailleurs. Il y a quelques écotouristes, mais sans plus. Elle n'est pas du tout aménagée pour le tourisme, comme Tenerife ou comme la Grande Canarie.
Nous sommes sur des îles volcaniques.
Hein, absolument, volcaniques, exclusivement volcaniques. C'est plus du tout, comme aux Maldives, des atolls. Et là, il s'est passé un événement tout à fait surprenant. On a appris qu'un volcan était entré en éruption au fond de la mer. Et on a vu qu'il y avait des bulles qui sortaient sur la mer, il y avait des morceaux de lave qui sortaient, la mer avait une couleur verte. On a envisagé d'interdire les bateaux, on les a d'ailleurs interdits, on a envisagé de déplacer les habitants de la Restignac, qui est le village où ça se passe.
Car en fait, le cratère existait déjà, oui. À 250 mètres de profondeur.
Absolument, absolument. Et là, mon collaborateur et fidèle ami, éco-auteur Franck Stéphan, s'est branché sur Internet, il a suivi au jour le jour, ça l'a passionné. Tout d'un coup, il m'a dit, ben voilà, je ne prends pas de vacances cette année, je vais aller voir la sortie de la 8e île. Parce qu'on a cru qu'une nouvelle île allait surgir de l'océan. Alors il est parti là-bas, et profitant de son départ, ça s'est arrêté. Là, il est arrivé à Hierro et le volcan n'est pas sorti. Il est monté de moins 250 à moins 86.
Déjà un bel effort.
Oui, donc il faudra faire un nouveau voyage quand il fera les derniers 86 mètres pour sortir et pour faire la 8e île des Canaries. Parce qu'elles sont sorties l'une après l'autre, comme ça. Et celles qui sont près de l'Afrique sont sorties les premières et Hierro est sortie la dernière. Donc voilà un îlot. Du coup, il en a profité pour regarder ce qui se passe sur El Hierro, et il a été très frappé du fait que El Hierro a décidé d'être exclusivement dans le développement durable. Beaucoup de vent, donc des éoliennes, des véhicules qui bientôt, mais là c'est imminent,
électrique.
Seront tous électriques. De l'agriculture biologique et exclusivement biologique. Donc c'est un grand projet. Et cette île a été classée dans les réserves de biosphère par l'UNESCO, où il y a à la fois la protection de la nature et en même temps un développement durable pointu. Donc c'est ça qu'il a remarqué là-bas et c'était évidemment tout à fait intéressant. Et puis il a vu aussi le Mirador de Pena.
Qu'est-ce que c'est ça ?
C'est un monument face à la mer dédié aux éléments, dédié au vent, au feu, à la terre et à l'air, qui a été réalisé par un personnage très en vue aux Canaries qui est César Monriquet. César Monriquet est un artiste qui a fait ses études à l'Institut des Beaux-Arts de Madrid, qui connaissait bien Picasso, qui connaissait bien Miro, et qui a inventé une architecture douce, pas voyante si vous voulez, spécifique des paysages canariens, et en particulier des très beaux paysages de Hierro. Et il a aussi travaillé sur une autre île, qui est celle de Lanzarote, dont il est originaire, puisqu'il est né à Arrecife, la capitale de l'île de Lanzarote. Alors l'île de Lanzarote, j'y étais, c'est vraiment une île extraordinaire. Si vous mettez un œuf par terre, il est cuit, c'est à certains endroits. Et si vous mettez le pied par terre, il est cuit aussi. Donc il ne faut pas mettre le pied par terre, il faut avoir des semelles épaisses, parce que la lave volcanique est bouillante. Et il ne pousse rien là, évidemment il ne pousse rien. Ben si. Il pousse quelque chose. Parce que si la lave se refroidit un peu, on fait des petits murets qui sont, disons, en demi-cercle pour arrêter le vent. Et au creux de ces petits murets, on peut cultiver. Et on peut profiter de la brume qui donne des gouttelettes d'eau qui vont suffire à ces cultures, donc sur des conditions extrêmes.
Parlez-nous des arbres fontaines.
Oui, alors les arbres fontaines, ce sont des arbres qui captent la brume et qui transforment sur leurs feuilles la brume en gouttelettes d'eau. Et l'eau s'égoutte et donne par conséquent de l'humidité qui servira aussi à cultiver. Alors il y avait un arbre fontaine qui s'appelait le garroé. Il a été emporté par un ouragan il y a une trentaine d'années. Il était considéré comme le prototype de ces arbres fontaines. Alors on n'est pas tout à fait sûr des espèces, mais c'est des espèces de la famille du laurier sauce, le laurier à nous, les lauriers qu'on met dans l'alimentation, pas le laurier rose.
Il existe un endroit où les hommes parlent comme les oiseaux. Sur l'île de la Gomera, on entend El Silbo en en écoute.
On a le même phénomène d'ailleurs en Namibie et aussi sur le désert d'Atacama.
Oui, parce que les grands continents sur leur versant ouest sont très secs. C'est vrai en Afrique, c'est vrai aussi naturellement au Chili. Et là, il n'y a pas seulement des arbustes, il n'y a pratiquement pas d'arbustes. Il y a des constructions métalliques qui prennent les gouttelettes d'eau et qui les captent et qui servent à faire une culture évidemment très, très rudimentaire. Voilà Lanzarote et voilà Hierro. Alors, Lanzarote, il y a quelque chose, on va terminer là-dessus. Il y a les grottes de Yameos de Agua, où j'ai été. Alors ça, c'est superbe. Vous descendez dans une grotte, il y a une lumière diffuse, il y a de la musique classique, il y a l'eau qui se reflète grâce aux éclairages, ils sont bien calculés. Il y a des petits crabes aveugles qui vivent là depuis toujours et qui n'ont jamais vu la lumière avant qu'on installe la lumière électrique. Les touristes s'y précipitent. C'est un lieu émouvant. C'est un chemin par lequel les laves avaient coulé et qui s'est évidé. Et on l'appelle aussi la grotte de l'Atlantide, parce que dans l'histoire de l'Atlantide, les Canaries sont aussi clientes, voilà, pour être considérées comme étant le lieu où il y avait l'Atlantide.
Un certain nombre. Hein,
oui, il y en a beaucoup, oui, beaucoup, beaucoup.
Merci beaucoup Jean-Marie. Carnet de voyage d'un botaniste chez Fayard. Et puis on vous retrouve très bientôt. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Et me voilà, petit géant, prêt à siffler dans le vent. Les deux, trois mots que j'ai gardés s'envolent vers toi. Comero, Bonifacio.
Oui, un petit coup de féloche quand même sur ces îles Canaries qui d'ailleurs sont menacées grâce au principe d'innovation de forage pétrolier à 60 km de Lanzarote. Donc le gouvernement espagnol soutient la compagnie Repsol et il s'agirait de forer entre 3000 et 6000 mètres de profondeur pour chercher du pétrole qui est bien sûr l'énergie d'avenir. Et pour la compagnie, on est proche du zéro risque. Bah oui. C'est normal. Alors les Canariens n'en veulent pas, donc ils ont beaucoup défilé. Et pour beaucoup, le modèle, c'est l'île d'El Hierro, justement, qui utilise 100% d'énergie renouvelable, qui est tirée du soleil, du vent, des vagues. Donc voilà, ce sont des principes de vie qui s'affrontent. Ce n'est pas nouveau, et on le sait, dans ce magazine. On a un petit message ? Ah bah oui, ça nous emmène en Seine-Saint-Denis, parfait.
Les 14 et 15 juin prochains auront lieu en Seine-Saint-Denis les 24 heures pour la biodiversité. Il s'agit d'un événement ludique et pédagogique dédié aux sciences participatives et tout particulièrement au programme Visinature du Muséum National d'Histoire Naturelle. Les 24 heures, ce sont des animations nature entièrement gratuites qui se déroulent dans les grands parcs du département, mais aussi dans les espaces verts des villes, dans les squares, le long des trottoirs, partout en Seine-Saint-Denis. Ces animations sont menées par les associations naturalistes partenaires et les collectivités qui sont épaulées pour ce faire par des chercheurs du muséum qui se prêtent au jeu pour expliquer au grand public quel rôle il peut avoir dans la connaissance de la biodiversité. Merci.
Merci à vous 01 56 40 40 35. Donc après ces voyages en Arctique, en Mongolie, à Washington, à Curitiba et puis aux Canaries, à Bad, tenez, aussi dans le département de l'Ain, toujours grâce au répondeur.
Bonjour Denis, je suis Fabrice Darino, le conservateur de la réserve naturelle du Marais de Lavour dans la région Rhône-Alpes. Et je voulais signaler à tes auditeurs que la réserve naturelle fête cette année ses 30 ans d'existence avec un nouveau sentier sur pilotis qui permet d'accéder au cœur du Marais. Alors je t'invite ainsi que les auditeurs à venir découvrir le Marais de Lavour qui est un écosystème exceptionnel. À bientôt.
Et ils font un sacré boulot, hein. Donc c'est pas loin du Rhône bien sûr, on est au pied du Grand Colombier et c'est très très beau, voilà, vive les réserves naturelles de France et d'ailleurs un grand merci à la technique à Anthony Thomasson et Alexandre Chenet, à Sonia Leglen notre assistante et Hélène Bizio qui a coloré toute cette émission, à Albert Hook, Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO de Mon Amour, donc vous avez pas mal de références hein, sur le site, donc n'hésitez pas, franceinter.fr et puis après donc le site de CO2, la semaine prochaine on parle de transition énergétique, entre autres avec Pierre Radane qui sera avec nous en direct dans ce studio. Le podcast, vous le connaissez, La Tulle du Mon Petit Loup, demain 19h54, Vivre avec les bêtes d'Alain Bougrain Dubourg, et bien c'est aussi demain sur le coup de 15h.
CO2 Mon Amour, avec Nissan et ses nouveaux véhicules 100% électriques.